بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Et Ikhwani fillah, on avait introduit la sourate al-Mulk la semaine dernière. On avait expliqué le choix, la raison de notre choix. Pourquoi est-ce qu'on a, bi-idhnillah, décidé de commencer le tafsir de Tabarak al-Ladhi plutôt de retourner vers al-Baqara ou sourate Yusuf ou Yassin. On avait expliqué l'importance de la lecture régulière, journalière de la sourate al-Mulk. Et on avait rappelé le hadith en introduction dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam avait dit qu'il y a de le Coran un surah qui comporte 30 versets. Il y a de le Coran un chapitre qui comporte 30 versets qui intercéderont pour celui qui le lisait régulièrement hatta rufira lah, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla pardonne cette personne. Et le prophète dit c'est tabarak alladhi biyadihi al-mulk, hadith rapporté par Imam Ahmad. Dans une autre version de Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit qu'il y a un surah, un chapitre de le Coran qui va résister, qui va, mashallah, tenir ferme aux côtés de sahibiha, aux côtés de celui qui avait une relation avec lui, c'est-à-dire qui le lisait régulièrement, jusqu'à ce que cette personne puisse enfin entrer, accéder au Jannah. Et le prophète dit que c'est Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, apporté par Al-Tabarani. Et enfin, on avait cité le troisième hadith, celui de Jabir radiallahu anhuma, de lequel le prophète alayhi salatu wassalam, de lequel il explique que le prophète alayhi salatu wassalam kana la yanam wa hatta yaqra'a deux sourates Alif Lam Mim et Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Ce hadith est rapporté par, c'est dans les commentaires de Aridatul Ahwazi. Donc ces trois hadiths nous font réaliser l'importance de lire Tabarak alladhi tous les soirs avant de dormir, et on comprend quelles seront les récompenses dans la tombe et inshallah dans le delà umouman. Et ces trois hadiths, on va dire, sans entrer dans les détails, le premier et le deuxième hadith, c'est une citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths, il y a différentes catégories. Il y a des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une parole. Et puis, il y a des hadiths où une personne décrit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est ce qu'on appelle hadith également. Parce que les hadiths, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais également ce que les gens, les sahaba bien sûr, les gens qui l'ont vu, ce qu'ils racontent, comment est-ce qu'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam agir, faire, qu'est-ce qu'il disait, comment est-ce qu'il se comportait dans telle circonstance. Et même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était face à une situation et qu'il restait silencieux, ce qui voulait dire qu'il était d'accord. Iqrar, on appelle ça. Même le iqrar, c'est considéré comme hadith. Quand le sahaba dit que, par exemple, on a mangé tel animal, Ad-Dhab par exemple, l'iguane du désert, je sais pas, il y a peut-être des termes plus scientifiques, on a mangé de cet animal auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a proposé, il n'a pas voulu manger. Il a dit que ça ne fait pas partie des adat, des habitudes de mon qawm, de mon peuple. Mais il a laissé ses autres sahaba manger, parce qu'eux ils avaient l'habitude. Sahaba, les savants disent que ça aussi c'est un hadith, le fait que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas empêché. Donc ça c'était un petit détail pour qu'on réalise qu'il y a différentes catégories de hadiths. Les deux premiers, ce sont des citations, et le troisième, c'est un sahaba qui est en train de raconter comment le prophète alayhi salatu wassalam se couchait. Le soir, il ne dormait pas sans avoir lu ces deux chapitres, et parmi ces chapitres, surat al-mulk. Hada. Maintenant, on va commencer, on entre bi-idhnillah dans le vif du sujet, en demandant à Allah Rabbul Izzah de la sincérité, l'ikhlas, et la clairvoyance, et la compréhension de ces écrits de Al-Imam Al-Kabir ibn Kathir rahimahullah, qui dans le début du verset Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, on a lu la traduction béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Ibn Kathir rahimahullah, il donne une définition du mulk, de la royauté d'Allah Azza wa Jal, et la surah porte le nom de Al-Mulk, surat Al-Mulk. Il dit ay huwa al-mutasarrifu fi jami'il makhluqat bima yasha لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. Il écrit que Allah Rabbul Izza a toute autorité sur l'ensemble de la création. C'est ce qu'on appelle en arabe al-alamin. Quand on dit alhamdulillahi rabbil alamin ay kullama siwa Allah, tout ce qui existe, c'est-à-dire mis à part, on enlève le khaliq, tout ce qu'il y a comme makhlouq, c'est kullama siwa Allah al-alamin. Et l'autorité d'Allah, la royauté d'Allah, le pouvoir d'Allah concerne toutes ces choses. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui existe qui n'émane pas directement d'Allah Azza wa Jal. Et donc Allah Rabbul Izza a mulk tam, autorité totale et complète sur tout ce qui existe. Donc déjà le début du verset, on voit le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Et le premier verset se termine par une des sifat d'Allah, Al-Qadir. Celui qui est capable de tout. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est omnipotent. Ils ont traduit par il est omnipotent, on pourrait donner une traduction plus précise, et il est capable de tout. Celui qui n'a aucune limite dans sa capacité, dans son pouvoir. Ibn Kathir rahimahullah dit, voyez déjà le premier verset, comment il percute le croyant, et en même temps il le rassure. Que le Seigneur que tu adores, sache ô musulman, que le Seigneur que tu adores, il est puissant. Il est parfait, il est capable de tout. Ala kulli shay'in qadir, ala kulli shay'in wakil. Et déduisez que innama amruhu idha arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun. Si Allah décide, si Allah décrète, Allah ordonne et tout s'exécute parce que c'est le Khaliq, c'est le Malik, biyadihi al-mulk. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jalla. Les savants disent également Al-Mulk At-Tam, la royauté d'Allah Azza wa Jal concerne toutes les étapes. Dunya, le marhala de la tombe, la résurrection, l'au-delà, tout. Maintenant, le fait que nous constations parfois qu'il y ait des injustices ou des incohérences dans ce dunya ou dans son fonctionnement, cela ne remet aucunement en cause le pouvoir d'Allah sur ces choses. Je vous donne un exemple très clair. Lorsque, par exemple, on a tous été choqués par une image, par une photo cette semaine. De quoi on parle? Y a-t-il besoin de préciser? Inhumain, celui qui n'a pas versé une larme en voyant cette photo. Maintenant, ce que les médias donnent comme interprétation, instrument médiatique et tout, on n'a pas à rentrer dans ces détails. Un enfant ma'soum, innocent, qui est décédé, cet enfant c'est notre enfant. C'est un muslim, min ahli sunna. Et nous savons pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur pays, et qui sont ces personnes qui font un tel volm, des gens qui ont la ilaha illallah, mais la ilaha illallah avec, Allah musta'an, d'autres principes. Khair. Quand nous voyons ce genre d'image qui nous choque, est-ce que on est en droit de se dire que Allahu Akbar, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal a laissé faire une telle chose? Est-ce qu'à un moment donné on peut se dire, est-ce qu'on a le droit de se poser la question? Astaghfirullah, ça c'est kalimatul kufr, mais il ne faut pas que ça effleure notre esprit. Allah n'était-il pas capable de changer la situation, de protéger cet enfant? Bila shak, sans le moindre doute, la vie de cet enfant était dans la main d'Allah Azza wa Jal, comme notre vie est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Mais qu'est-ce qui fait que nos enfants, nous, alhamdulillah, ils ne connaîtront, inshallah, jamais ce genre de situation, et cet enfant a été éprouvé, parce que c'est le terme, par cette situation, c'est là, al-qada ou al-qadr, la décision d'Allah Azza wa Jal. Mais en aucun cas, ce qui s'est passé, ou, subhanallah, on pourrait remonter à l'histoire des injustices, et on retrouverait des injustices entre les peuples, entre les individus, entre les membres d'une même famille, entre des dynasties, dans l'histoire de l'islam également, entre les Banu Umayya, entre les Umayyades qui ont fait parfois des choses pas bien, entre les Abbasides, Dawla Abbasiya, qui par la suite se sont vengés cruellement, cruellement, de manière inhumaine sur les Umayyades. Il a réalisé Ali, si on analyse le Dawla Fatimiya, s'il y a nécessité de préciser qu'ils sont de quel courant, ces personnes qui ont osé voler Hajar al-Aswad et amener de leur pays pendant je ne sais combien de temps On remonte encore l'histoire, le nombre de sahaba qui ont été tués à Al-Madina, Al-Munawwara, alors que c'est un endroit qui est haram, sacré, où le sang ne devait pas couler. Si on remonte, on remonte, on remonte, qu'est-ce qu'ils ont fait à Hamza, radiallahu anhu? Et en remontant, en analysant ces différents événements qui sont tragiques, on finit par réaliser que oui, mais ces premiers événements, il y avait un khair. Mais tout ce qui découle à travers le temps, il y a un khair. Cela émane de la décision d'Allah Azza wa Jalla. Si vous posez la question, pourquoi cet enfant est-il décédé? Pourquoi est-ce qu'il a péri noyé? Est-ce que, subhanallah, il n'y avait pas, astaghfirullah, est-ce qu'il n'y avait pas moyen qu'il ne connaisse pas une telle fin? Ben, on pourrait remonter la pendule. N'y avait-il pas moyen pour que l'oncle du prophète Hamza ne connaisse pas une mort aussi atroce sous les mains de, comment il s'appelait encore? L'Éthiopien. Son nom c'était Wahshi, oui, Wahshi barakallahu fik, et ensuite mutilé par Hind, qui par la suite obtiendra le titre de radiallahu anha, tout comme Wahshi obtiendra le titre subhanallah de radiallahu anha. Donc on va dire que oui, mais Hamza, il y avait un khair dedans, c'était la décision d'Allah que ça se passe comme ça. On va dire, et Soumaya radiallahu anha, qui est morte, écartelée, on va dire qu'il y avait un khair dedans, c'était une épreuve pour elle, pour son iman, et elle a eu de hauts degrés. Qu'en est-il de Al Yasir, radiallahu anhu majma'in, cette famille qui a péri à Mecca, dans les premiers jours de l'islam, parce qu'ils ont affirmé la ilaha illallah. Tout ça, ça émane de la volonté d'Allah, du mulk d'Allah. Tout était dans le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui sort du pouvoir et du royaume d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui se passe, c'est par ordre d'Allah, et il y a un khair. Maintenant, Allah Azza wa Jal accorde une partie du mulk, une partie de la royauté, concernant les affaires de ce dunya à certaines personnes, à certains individus. Et ce mulk qu'Allah accorde à ces gens, c'est une épreuve et non pas un bienfait. On va dire avant tout, c'est une épreuve pour voir comment est-ce qu'ils vont agir avec ce mulk, ce pouvoir. Et en fonction de leur façon d'agir, Allah va les agréer, si c'est des gens qui avaient iman. Et la plus belle des récompenses, c'est le roi juste qui aura une place selon du trône d'Allah le jour de Qiyamah. Mais s'il a été injuste, une humiliation devant l'ensemble de la création le jour de Qiyamah, et un châtiment terrible, parce que lorsqu'Allah accorde le pouvoir à une personne, il fait preuve d'injustice, il aura des comptes à rendre, plus que nous avons des comptes à rendre. Parce qu'il a eu un ni'ma, un bienfait de la part d'Allah, et il a mal agi par rapport à ce mulk. Donc, le pouvoir d'Allah, la royauté d'Allah n'a pas de limite. Ce qui se passe émane de la volonté, de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il y a les asbab, les intermédiaires. Allah accorde une partie du mulk pour le dunya à certaines personnes. Soit ils agissent correctement, soit ils agissent de façon injuste. Et la mort de ce petit enfant résulte d'un mulk qui a été utilisé à tort. La mort de cet enfant résulte d'un pouvoir qu'Allah a accordé à certaines personnes qui ont fait preuve de rhum d'injustice qui a abouti à cet exode, à cette fuite de la population de ce pays jusqu'à ce qu'il y ait ce genre de drame, et pareil pour d'autres régions du monde. Donc en aucun cas on ne doit douter du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Rien ne sort du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hada. Et quand Allah Azza wa Jal accorde le mulk à des personnes de ce dunya, on va dire que de ce monde, Allah prend les décisions et ensuite il donne la possibilité à certaines personnes d'agir en bien ou en mal. Et lorsque il s'agit de croyants, on a des textes de le Coran qui incitent le croyant à agir correctement, même si ils ont affaire à des gens qui, à la base, les détestent et leur veulent du mal. Le verset وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى pardon عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Dans le sens de ce verset, que même s'il y a des gens qui agissent mal avec vous, qui vous veulent du tort, mais quand vous avez affaire à eux pour quelque chose de neutre, ben il ne faut pas que cet antécédent vous pousse à être à votre tour injuste envers eux. Non, soyez juste, parce que c'est plus proche de la taqwa. Voilà donc les directives d'Allah Azza wa Jal quand il accorde à des personnes la possibilité de trancher ou de prendre des décisions. Par contre, le mulk d'Allah Azza wa Jal, il est khas, il est que pour le khaliq, le jour du qiyam. D'où le verset Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Dans Malik et dans Al-Mulk, Biyadihi Al-Mulk, on retrouve la même racine, le mim, le lam et le kaf, la royauté. Les savants disent que Maliki Yawmiddin, Allah est le maître du jour de la rétribution, ay Al-Mulku Tam. En ce jour, la royauté sera uniquement Allah Azza wa Jal. Et la personne ne prend plus de décision. Alors que de ce dunya, la sunna d'Allah, l'organisation d'Allah, c'est qu'il y ait des gens qui prennent des décisions. De bonnes, mais également des mauvaises. Comme on l'a dit, les bonnes seront, alhamdoulilah, source de récompense pour eux, les mauvaises, source d'affliction et d'humiliation, et de azab pour eux le jour de Qiyama. On a l'histoire de Pharaon, on a l'histoire de Qaroun, l'histoire de Haman, on a l'histoire d'Ashab al-Khdoud, des personnes, des vieillards, des femmes, des enfants, des bébés, qui étaient brûlés vifs parce qu'ils avaient la ilaha illallah de leur cœur, et comment est-ce que leur tortionnaire, il s'asseyait, Qu'oud, il regardait. Et il l'avait fait uniquement parce que ces gens avaient la foi. Quels seront leurs châtiments de le jour de Qiyama, et quel sera le grade des opprimés le jour de Qiyama? Nous avons tendance à analyser les choses avec un regard humain. On va dire qu'on n'a pas d'autre choix. Oui, c'est vrai, nous sommes des humains, donc on analyse avec le regard humain. Mais ce regard humain doit être porté, élevé par le regard du iman. On ne doit pas porter un jugement en fonction de notre conception du bien et du mal, notre analyse de la situation. Cela va au-delà de la situation géopolitique et de tout ce qu'on peut comprendre à travers les médias ou à travers ce que les médias veulent bien nous faire comprendre. Il y a le iman et la confiance en Allah Azza wa Jal. En aucun cas douter de la hikmah d'Allah dans tout ce qui se passe. Et ne jamais oublier qu'en finalité, le dénouement de toute chose, ce n'est pas ici, c'est dans l'au-delà. Autant d'oppression, de zulm, d'injustice, on constate de ce dunya, de le fonctionnement de ce monde, parfois entre des pays, entre des nations, des individus, entre des institutions, on se dit, mais les coupables, ils s'en sortent toujours. Ce sont les faibles qui payent, les forts, il y a des gens qui détournent des millions d'euros, on voit juste les grands titres, et puis on n'entend plus parler. Ben, ils n'ont jamais eu à rendre compte. Le petit, là, il a volé un petit truc là-bas, il va faire sa prison et tout. Celui qui a détourné des millions, on en parle. Une fois, ça fait le buzz. Et puis, ce coûte. C'est comme si que c'est enterré. Et la personne est tranquille. Il y a des incohérences de ce dunya. Mais n'oubliez jamais que ce dunya n'est pas une finalité. C'est un passage. Et la finalité, c'est al-akhira. Autant, nous-mêmes, parfois, on peut vivre des situations d'injustice. On ne doit pas s'accabler sur notre sort. On peut être triste, on peut être frustré, mais on doit garder confiance en Allah parce que de un, biyadihi al-mulk, Allah il a la royauté. Et Allah, astaghfirullah, Allah ne pouvait-il pas changer la situation? Bien sûr que oui. Quelqu'un m'a fait du tort, ou alors je suis malade, ou alors j'ai tel problème dans ma vie. Est-ce que al-malik, celui qui a la royauté, le pouvoir sur toute chose, n'était-il pas capable, qadir, de me donner la santé ou de me préserver de telle chose, de m'accorder tel bienfait que je n'ai pas eu, ou d'éloigner tel bala qui m'empêche d'avoir telle chose, sans le moindre doute. Mais il a décidé autrement, donc tu te fies à lui. C'est pas qu'Allah ne te veut du mal, c'est pas qu'Allah n'était pas capable, astaghfirullah. C'est qu'Allah a décrété que voilà donc la situation pour toi, et donc ça t'amène vers un qana', une acceptation et une soumission à Allah Azza wa Jal, parce qu'il est ala kulli shay'in qadir. Voilà donc ce qu'Ibn Kathir rahimahullah dit, et avec un peu plus de commentaires concernant tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc il dit idhan ya muslim tawakkal alayh, et confiance en ton Rabb. Ne perds jamais confiance en Allah, parce que dans ce premier verset qui te percute spirituellement, tu as deux qualités d'Allah, biyadihi al-mulk, la royauté complète lui appartient, et il est capable de tout, il est omnipotent, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc sans le moindre doute, nous nous devons d'avoir une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Ce verset vous rend fort. Ce verset rend le croyant fort, il renforce le croyant psychologiquement et spirituellement. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les gens qui te veulent du mal, mon Seigneur, il est ala kulli shay'in qadir. Mon Seigneur, biyadihi al-mulk. Tu prétends contrôler, diriger. Le mulk, il est dans les mains d'Allah. Et tu verras. Soit ici, si ce n'est pas ici, c'est là-haut en tout cas, c'est sûr que tu vas voir. Hada. Et ce qui nous rassure, c'est qu'en finalité, on retourne auprès de lui. Le croyant retourne auprès de celui bi yadihil mulk. Maintenant, si quand tu retournes auprès de celui qui a la royauté dans ses mains et qu'il est content et satisfait de toi, ça ouvre beaucoup de perspectives et ça nous donne de l'espoir. On retourne vers le Khaliq, celui qui contrôle le dunya et le akhirah. Et s'il est content de nous, il nous donnera ce qu'il y a de meilleur de l'akhirah, c'est-à-dire le firdaus al-a'la min al-jannah. Allahumma amin. Alladhi khalaqa al-mawt wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Wa huwa al-'aziz al-ghafur, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Dans ce deuxième verset, Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme qu'il a créé la mort et la vie. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. Ibn Kathir rahimahullah dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal cite les deux choses qu'il a créées, il cite deux choses sur lesquelles l'homme n'a aucun pouvoir et parfois même aucune compréhension correcte et complète. Quand je vous parle de la vie, est-ce que la vie se donne aux mains? Déjà non, on ne peut pas donner la vie. Quand un enfant naît, qui te dit que subhanallah il va naître en bonne santé, combien de temps il va vivre? Il n'y a rien qui est dans nos mains. Ce n'est pas dans nos mains, ce n'est pas dans les mains des médecins, c'est dans les mains de personne. La vie, c'est spécifique au Créateur. Aucun scientifique ne peut donner la vie. J'ai déjà donné d'autres exemples dans différents sourates. Amener le plus grand astrophysicien, ou je ne sais pas, docteur en machin truc, avec une paire de gants et une table de travail, tu dis, crée maintenant, donne la vie. Et dit, à partir de quoi? Donnez-moi une cellule souche. Donnez-moi des trucs, je vais cloner. Non, 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 il n'a pas dit aux photocopies là. Il a dit au créer min al-adam. Et al-haya, c'est donner la vie min al-adam, à partir du néant. Et ça, c'est qudrat al-khaliq. Ala kulli shay'in qadir, il est capable de tout. Bi yadihi al-mulk, il est toute la royauté dans ses mains. Mais justement, c'est uniquement celui qui a la royauté complète et qui est capable de tout, qui peut extraire, qui peut faire naître, qui peut faire apparaître la vie à partir de rien, du néant. D'où la citation de cet exemple d'Ibn à ce moment précis pour que l'homme réfléchisse, parce que le Coran est une question de réflexion. Tu lis, ça t'interpelle et tu médites jusqu'à ce que tu réalises que subhanallah, effectivement la vie est dans les mains d'Allah. Personne n'a un contrôle sur la vie, personne ne peut prolonger d'une seconde la vie de quelqu'un. Quand l'ange de la mort doit reprendre l'âme, même si vous avez les appareils, les... Comment on appelle ça, les trucs qu'on met là, on dit un, deux, trois et tout, l'électricité, et tout... Non, ça ne s'appelle pas comme ça, essaye pas. Même si vous avez tous ces appareils, si c'est écrit que la personne meurt à 8h37, tu ne prolonges pas sa vie d'une seule minute. Parce que ça, c'est biyadihil mulk. Ça, c'est dans les mains d'Allah. Ça émane du pouvoir d'Allah. Khususiyyat d'Allah Azza wa Jal al-haya. Donner la vie et étendre la vie et limiter la vie. Parce qu'après la vie, il y a quoi? Alladhi khalaqa al-mauta wal haya. J'ai commencé par la vie parce que c'est l'ordre que l'être humain connaît. Alladhi khalaqa. Mais Ibn Kathir al-Muhammad, il a un tafsir ajib qui va, qui est bien au-dessus de ce que nous on peut comprendre directement. Il parle de Alladhi khalaqa al-maut, celui qui a créé la mort et la vie. Il dit que cette première citation, Alladhi khalaqa al-maut, c'est inna al-maut amrun wujudi li annahu makhluq. Alors comment il dit ça? Annahu, voilà, awjada al-khalaiq min al-adam. Il a retiré la création du néant et pour lui le Adam, ce monde où il n'y a rien, enfin cet état où rien n'existant, il fait allusion, c'est comme une mort. Et à partir du néant, de ce qui n'existe pas, Allah donne la vie. Donc deux choses qui ne sont pas dans les mains de l'homme. La mort au sens propre que nous connaissons. Parce que quand je dis al-maut, qu'est-ce que je comprends? Ben, c'est la mort, d'accord? Mais Ibn Kathir dit que ça peut être l'état d'avant la vie. Et c'est pour ça que al-maut était cité avant al-haya. Pourquoi il y a taqdim ta'khir? Parce que selon Ibn Kathir et d'autres mufassirin, ce maut c'est ce qui est inexistant et à partir de ça il y a al-haya. Et de notre compréhension à nous, une compréhension on va dire plus terre à terre, Allah est celui qui a créé la mort également. Et la mort également c'est quelque chose sur lequel nous n'avons aucun pouvoir. On ne peut pas reprendre l'âme d'une personne. Par exemple, si j'ai Iqbal devant moi, si on me dit reprends le ruh de Iqbal, impossible. Maintenant, c'est je vous dis pas des ustensiles, des armes, des autres choses, hein, mais je veux dire que décréter que son âme quitte son corps, ça c'est impossible. La mort est dans les mains. Et sur le plan scientifique, il n'y a pas de définition de la mort. C'est pas quelque chose d'explicable. Ils disent parfois c'est le vieillissement des cellules, ou ils vont essayer de trouver des termes, mais cette notion d'âme, de ruh, c'est quelque chose qui échappe des mains de l'homme et qui ne sera jamais connu jusqu'au Qiyam. Parce que dans le surat, je ne sais plus dans quel juz, c'est le 15e juz, il me semble, voyez, alou naka an ruh. Qul ruh min amri rabbi. Ça, c'est quelque chose qui est spécial, qui est spécifique. Allah seul connaît c'est quoi l'âme. L'âme, ça ne se mesure pas, ça ne se voit pas, même avec une caméra infrarouge ou autre chose, on ne détecte pas. Et cette âme-là permet à un corps de trouver vie, de bouger, d'avoir des sentiments, de réfléchir, de, subhanallah, de faire des choses magnifiques ou des choses horribles. Mais tout va dépendre du ruh, est-il présent, oui ou non. Et un homme qui peut, mashallah, il est bien, il fait 1m95, 150 kilos, il est beau, il est riche, il a tout, c'est quelqu'un de complet, qui a... Il suffit que l'âme quitte ce corps pour qu'il devienne un cadavre, qui va pourrir, qui va sentir mauvais et tout le monde voudra s'en débarrasser, alors que 10 minutes avant, tout le monde rêvait d'avoir une place auprès de lui ou d'avoir un peu des faveurs de la part de cette personne ou d'être proche de lui parce que c'était un acteur, c'était un... Bref, quelqu'un que les gens admiraient. L'âme sort du corps, il devient un cadavre, il sent mauvais, il pourrit, il faut l'enterrer, personne ne veut plus de lui. Donc ce sont des choses qui échappent totalement aux créatures et jamais les créatures n'auront un contrôle sur la vie ou la mort. Abaden. Contrairement à d'autres choses, comme la maladie et la santé. On sort un petit peu du tafsir. Dans les hadiths, le prophète alayhi salat wa sallam rappelle que pour chaque maladie qu'Allah a créée, Allah a créé son remède, le ilaj. Le prophète a dit, cherchez le remède, soignez-vous. Imam Shafi'i, rahimahullah, dit que anfa'ul ilm, la science la plus profitable pour l'homme, après al-ilm shar'i, après la connaissance religieuse, c'est la médecine. Parce que ça permet de, subhanallah, de soigner les personnes qui sont malades. Et d'un certain sens, ça rejoint ce que le prophète m'a encouragé de chercher les remèdes. Tadawaw ibadallah, soignez-vous, trouvez les remèdes, appliquez les méthodes, les remèdes pour trouver la santé. Donc, la maladie, la santé, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, nous est accessible. Ça peut ne pas être accessible, mais il y a une possibilité. Car le patient nous a demandé de trouver les traitements et de prendre les traitements quand quelqu'un, une personne est malade. Mais al-haya ou al-maut, ça, il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a pas de vaccin anti-mort, il n'y a rien, ça c'est impossible. Il n'y a pas de, qu'on appelle ça, de trucs, Saint Graal ou autre chose pour avoir la vie éternelle, ça n'existe pas. Ça c'est dans Indiana Jones, d'accord, ou alors dans d'autres légendes, mais ça n'existe pas. Al-haya ou al-maut, ça c'est biyadillahi bas. Alladhi, celui qui a tout dans ses mains, biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, alladhi khalaqa al-mauta wa al-hayata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Après, il y a d'autres détails, mais on va partir du principe qu'on n'entre pas dans trop de détails de tafsir pour pas que ça nous embrouille, afin qu'on garde l'information essentielle. Parce que la notion qu'on a dit tout à l'heure, que al-maut, c'est quand il n'y a rien, et à partir de ça, Allah vous donne la vie. Ibn Kathir le reprend à travers d'autres versets. Je me trompe pas, c'est dans Sourate Baqara. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Comment osez-vous renier Allah alors que vous étiez... Alors, littéralement, on traduirait comment? Kuntum amwatan. Vous étiez mort. Fa ahyakum, vous a donné la vie. Ah, attendez, mais s'il y a la vie, après il y a la mort. Mais là, littéralement, c'est l'étape où on n'existe pas. Al-Adam. Et à partir de là, Allah vous donne la vie. Donc le terme maut, mais là, ce n'est pas dans le langage commun de tout le monde. C'est vraiment la révélation d'Allah. Le terme maut peut désigner l'étape avant que l'âme pénètre le corps. On n'était rien et Allah nous a donné la vie. C'est déjà le premier ni'ma. La vie, c'est déjà le premier bienfait qu'Allah Rabbul Izzah accorde à une créature. Donc voilà, donc on ne veut pas trop rentrer dans cette interprétation, il ne faut pas s'embrouiller. Mais sachez qu'Ibn Kathir, il donne en commentaire, comme commentaire, al-maut, cette étape. Et d'Ibn Mufassirin, pour eux, c'est, on va dire, une lecture plus simple, la vie et la mort. Hada. Également, Ibn Kathir, il dit que le fait qu'Allah Azza wa Jal cite deux entités opposées, la vie et la mort, ce sont deux choses opposées, c'est pour qu'on réalise bien que ben, tout est dans les mains d'Allah. Ce qui a l'extrême, ce qui apporte l'extrême bonheur à la vie, et ce qui apporte le malheur, la tristesse, pardon, pas le malheur, ce qui apporte la tristesse, la fin de la vie, et la distance qui est entre les deux, ben, tout ça c'est dans les mains d'Allah, bas, uniquement afin qu'on réalise que tout est dans les mains d'Allah. Wahoua, wahoua, le pronom personnel wa, c'est lui et lui uniquement. Ala kulli shay'in qadir. Hada. Donc, alladhi khalaqa al-mawta wa al-hayata, deuxième partie du verset, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oula, il y a beaucoup de tafsir encore sur thumma yumitukum thumma yuhyikum. On va pas s'en sortir, subhanallah. Mais il y a des paroles magnifiques. Il y a des fois, les kathir, franchement, les savants, c'est eux, hein, c'est pas nous. Nous, on est des traducteurs. Fasseline, c'est eux, subhanallah. Et il reprend encore le prophète, dit que inna Allah, le hadith est long. Wa ja'ala ad-dunya dara hayatin thumma dara mawtin. Wa ja'ala al-akhirata dara jaza'in thumma dara baqa'in. C'est-à-dire des petites phrases, subhanallah, c'est des paroles d'une grande simplicité. Même si on n'est pas arabophone, on voit de quoi le prophète est en train de parler, mais c'est des paroles, subhanallah, le croyant, il médite, il comprend, mais ça lui donne une lecture claire et nette de la vie. Il comprend qu'est-ce qu'il fait là. On n'a pas philosophé à se poser des questions, qui suis-je, où est-ce qu'on va, pourquoi. Khalas, tu comprends tout à travers ces quelques paroles. Le prophète dit que Allah crée les choses de cette façon, et Allah crée le dunya. De le dunya, il y a la vie. Ensuite, il y a l'étape de la mort. Et Allah a créé le-delà, qui est Daru Jaza. C'est l'étape, c'est l'endroit, la demeure où il y a les rétributions par rapport à ce que vous avez vécu de ce monde. Thumma Daru Baqa. Et l'endroit où il y a l'éternité. Pour qu'on réalise qu'ici, c'est une étape. Et l'étape, c'est vie. Et juste après, il y a maut. Ça s'enchaîne. Et là-haut, c'est rétribution en fonction de la gestion de ton temps, de ce dunya, et surtout l'éternité. C'est-à-dire que la rétribution sera en rapport avec l'éternité. Tu es rétribué et la décision finale, bonheur ou malheur, ben sache qu'il y a l'éternité pour cela. Ah ben. Alors, donc, liabluwakum, et on terminera avec ce verset pour rester dans les 30 minutes, 32 minutes, liabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Liabluwakum ayyukum ahsanu amala ay khayru amala, qui parmi vous accomplit les meilleures des bonnes actions. Et khayru amala, les meilleurs. Ibn Kathir rahimahullah dit, c'est un tafsir plus ou moins connu, il dit que walam yaqul aktharu amala. Allah n'a pas dit qu'il vous a créé pour vous éprouver qui d'entre vous accomplit le plus de bon acte. Non. Ahsan. Ahsan, c'est les meilleurs. Et d'autres mufassirin, ils disent que Ahsan ay akhlasu amala. Pour voir qui parmi vous est le plus sincère, qui s'applique le mieux dans ses a'mal ou salihah, dans sa soumission à Allah Azza wa Jal, dans l'accomplissement des bonnes actions. Et lorsque Ibn Kathir dit, وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرُ عَمَلًا, pour qu'on comprenne, on réalise que l'objectif, c'est pas de faire plein de choses. L'objectif, c'est de se soumettre à Allah. Et dans les actions qu'on va faire, qu'il y ait istislam tam lillahi Azza wa Jal, qu'il y ait une soumission parfaite à Allah Azza wa Jal. Lorsque, j'ai plus le nom de ses pieux prédécesseurs, lorsqu'il y a un qui expliquait que je préfère faire deux unités de prière en lisant telle sourate et telle sourate, en pensant, en réfléchissant, en méditant, en me soumettant à Allah Azza wa Jalla à travers chaque verset, en réalisant que dans ces deux unités de prière, je suis devant Allah, je suis en train de prononcer la parole d'Allah, je me prosterne devant Allah, je fais la génuflexion, le rukou' devant Allah, je fais le majd d'Allah Azza wa Jalla. Ressentir la grandeur et la puissance d'Allah, pour moi, c'est mieux que celui qui passe une nuit, qui lit de longs versets, mais sans tadabbur, sans réfléchir, sans méditer, sans rien ressentir. Ça, c'est ce que ce savant, subhanallah, il fait bien réaliser que l'objectif, c'est pas al-kathra, c'est pas faire plein de choses. L'objectif, c'est la qualité des a'mal, la qualité des actions. On a parlé ce Jum'a, que parmi les qualités qu'on doit retrouver dans les actions, c'est la sincérité, c'est al-ihtisab. Tu t'appliques dans les bonnes actions. Tu le fais consciencieusement, avec dévotion. Pourquoi tu le fais consciencieusement et avec dévotion? Parce que tu as al-ihtisab, ihtisab ou l'ajr. Tu as la conviction que, et l'espoir que tu vas retrouver les récompenses de cette action le jour de Qiyam. C'est-à-dire que tu prépares, c'est comme si tu prépares la bonne action, tu fais un emballage, tu vas le perfectionner, afin que lorsque l'action est amenée dans ton mizan, tu vois une action qui est magnifique, qui est belle, qui était sincère, lillahi wahda, appliquée avec humilité et qui t'apportera beaucoup, qui pèsera beaucoup dans la balance. De cette façon, on trouvera la concentration et la dévotion dans toutes les actions. Parce qu'on a, on arrive à se projeter, on arrive à projeter cette action dans le akhira, dans l'étape du mizan, dans l'étape de la balance. Hada. Donc, l'objectif c'est travailler la qualité et surtout la sincérité des actions. Liabluakum ayyukum ahsanu amala. Également, les ulama, rahimahumullah, disent que parmi les conditions pour que l'action soit décrite comme hasan, comme étant une action correcte, la sincérité, mais également et surtout, mutaba'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'action qu'on accomplit, l'action qu'on va faire, l'action qu'on va perpétuer, on va l'adopter au quotidien ou occasionnellement, quelle que soit l'action, doit émaner de la sunna de Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une personne peut s'efforcer à faire une action, y passer des heures, des nuits, à dépenser son argent, si cette action ne trouve pas sa source dans la parole d'Allah, ou l'habitude, la sunna, les paroles, les traditions du prophète alayhi salatu wa salam, cette action n'aura aucune valeur. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Celui qui apporte quelque chose dans ma religion qui n'en fait pas partie. Quelqu'un innove, apporte une action, et quand on voit cette action, c'est impressionnant. On dit waouh, ça c'est une action, mashallah, ça a l'air bien, ça augmente le iman. Mais quand on analyse, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Les khulafar rachidi ne l'ont pas fait. Les pieux prédécesseurs, ashabul qurun al-mufaddala, les tabi'in, atba'a tabi'in ne l'ont jamais fait. Les gens que nous considérons comme les a'imma, je suis Hanafi, Abu Hanifa, tu es Maliki, Imam Malik, tu es Shafi'i, Imam Shafi'i, tu es Hanbali, Imam Ahmed. Tu analyses, ben ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait allusion à ça. Tu te rends compte que l'action est apparue à un moment donné, après la réflexion des gens, qu'il serait bien d'apporter telle chose. Ben tu dois réaliser que l'action-là ne t'apporte rien. Parce que si c'était quelque chose qui pouvait augmenter le iman, qui pouvait nous faire avancer, qui pouvait créer une proximité entre nous et Allah, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'aurait enseigné. Qu'Allah rabbi l'Izzat du Coran, « Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. » Il a reçu l'ordre de propager tout ce qu'Allah lui a révélé. Le prophète sallam, est-ce qu'il y a des choses qu'il a gardées pour lui? Na'oudhu billah. Est-ce qu'il y a une piste pour se rapprocher d'Allah qu'Allah ne nous a pas dévoilée? Abadan wallah. Imam Malik, si je ne me trompe pas, Imam Shafi'i, plutôt Imam Malik dit que celui qui accomplit une action qui ne fait pas partie de la sunna, avec la conviction que non, ça c'est une bonne chose, ça va me permettre d'avancer, c'est faqad kafa. Comment il a dit les termes du hadith? C'est comme si il n'a pas confiance en la révélation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas confiance en sa sunna. Et bien sûr qu'il n'a pas confiance, parce qu'il pense que telle chose qui est innovée, qui a été créée, qui a été inventée par un homme il y a 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles ou même 10 siècles, mais qui ne remonte pas au prophète, il pense que ça va lui permettre d'avancer. Et du coup, il pense que ce que le prophète nous a donné, ma yakfi, c'est pas suffisant. Ce que cet homme-là a apporté, lui, après des siècles après, ça va m'aider. Vous voyez une incohérence? À partir du moment où on se détache de Al-Asl, on se retrouve comme les... comme les autres communautés. Comme les autres communautés qui se sont détachées de Isa, de Moussa, de leur prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne les ont pas pris comme modèle, mais qui ont juste écouté ce que les gens ont dit, sans connaître les textes, sans qu'il y ait de chaîne de narration, voilà, et ils ont pratiqué, et ils sont devenus al-maghdoubi alayhim et ad-dallin. Soit les savants cachés, ils disaient n'importe quoi, soit ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus de socle, ils n'avaient plus de repères, et donc ils se sont perdus, même s'ils avaient la dévotion, même s'ils avaient envie de bien faire, mais ils étaient complètement perdus. Cette umma ne peut pas connaître ce sort. Cette umma ne doit pas connaître ce sort, ne doit pas se laisser embarquer par des pratiques qui ne se rattachent pas au Coran, à la sunna. Quand le prophète dit que je vous ai laissé deux choses, si vous accrochez, vous ne serez jamais garé, c'est la parole d'Allah et ma sunna. C'est avec ça qu'on trouve la vie spirituelle. C'est à ça. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اعْتَصِمُوا أي تمسكوا. Accrochez-vous à la corde d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Le Coran est la science qu'Allah nous a donnée. Ça nous permet de rester dans le droit chemin jusqu'à la mort. Comment est-ce qu'on on s'en éloigne? Pourquoi? Au nom de quoi on va chercher le haq ailleurs? Alors que le haq se trouve là. Si, subhanallah, on devait comparer Ibn Kathir, Al-Baydawi, Al-Zamakhshari, Al-Qurtubi, Al-Shawkani, Al-Sa'di, uniquement sur Tabarak al-Ladhi, biyadihi al-Mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, on en aurait pas la soirée, subhanallah. Tellement ces versets sont riches, tellement ces mufassirines, avec le ilm qui est limité, pourtant, ils en ont extrait des masailles, ils ont extrait des leçons de spiritualité. Donc, on a tellement à apprendre du Coran, on va piocher ailleurs. On a tellement à apprendre du modèle prophétique et on va écouter des hommes qui ne sont pas notre prophète. Même s'ils veulent nous apporter quelque chose de bien, mais si la pratique ne se rattache pas au modèle Mohammedi, où est-ce qu'on va? Hada. Qu'Allah nous accorde la guidine et nous garde le droit chemin. Les savants disent que parmi les conditions pour que l'action soit considérée comme hassan, une bonne action, sincérité, ikhlas, de mutaba, suivre que l'action est sa source dans la du Coran ou la sunna du Prophète sallam, et avec ça l'ihtisab, que l'homme s'applique et il est conscient que cette action-là, je veux retrouver les récompenses le jour de Qiyama auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, là c'est moi qui rajoute, après l'action, ce qu'il faut faire c'est hifzul amal, faire en sorte de protéger l'action. On a fait une bonne action, ne dilapide pas ton action. Là, tu étais dans un majlis de tafsir, on a écouté, on a parlé des choses, il y a peut-être un petit regain spirituel. Il ne faut pas qu'on arrive dehors, on va commencer à parler sur les gens. Un tel a dit ça, un tel a fait ça, un tel est comme ça, et on va faire la médisance, la calomnie, et on brade, on donne, on distribue une bonne action. Ce serait vraiment dommage. Quand on accomplit une bonne action avec toutes les conditions qui sont réunies, on doit également penser à l'après. Il doit avoir un SAV de bonnes actions. Le SAV de bonnes actions, c'est que nous, c'est de nos mains. Faire en sorte de les protéger, de ne pas les vendre, les dilapider. On terminera par cette citation de... Ah, son nom ne me revient pas, ce tabi'in. Son nom est connu, subhanallah. Une fois, il envoie un plateau, vous connaissez l'anecdote, un plateau de rotab, de dattes fraîches, à une personne. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui il n'avait pas vraiment d'affinité. Et la personne reçoit ce plateau en cadeau. Bon, il dit merci. Elle dit non, c'est moi qui remercie. Alors, en ce moment, il vient, il donne un cadeau à quelqu'un qui n'a pas d'affinité, et il remercie la personne. Alors, la personne ne comprend pas, dit, il faut m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Elle dit, on m'a rapporté que dans une assemblée, tu as fait riba, tu as fait mon riba, tu as parlé en mal de moi. En mon absence, tu as fait la médisance. Et j'étais tellement content que tu m'as lavé de mes péchés. Donc, là, je suis tellement heureux que tu me laves de mes péchés. Ben voilà, donc un petit cadeau d'encouragement et de félicitations du jury. La personne a dit, oula, crac. Donc, c'est une tarbiya ajib de... Je vais retrouver le nom du tabi'in, inshallah. Pour qu'on réalise que le riba, c'est grave. Et donc, l'après-bonne action, faisons en sorte de le garder. On a fait combien de qiyam al-layl, de tahajjud durant le mois de Ramadan, on a fait combien de bonnes choses? Comment serait dommage de tout lâcher en faisant des actions bêtes, d'accord? Des péchés bêtes, parce que vous savez qu'il y a des péchés qui grignotent, qui brûlent, qui consument les bonnes actions. On doit faire le maximum d'efforts pour les éviter, pour donc protéger, conserver nos bonnes actions. Liabluakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur, et c'est lui le puissant. Al-Aziz, c'est une sifa d'Allah Azza wa Jal, une qualité d'Allah qui montre la puissance, le pouvoir. On a vu Al-Mulk, c'est le pouvoir d'Allah. Et là, on voit la puissance. Vraiment, on se dit qu'Allah, on réalise qu'Allah est vraiment, il est fort, il est puissant. Et que quand je me prosterne, ben je me prosterne devant Al-Qadir, je me prosterne devant Al-Aziz. Et donc, comment mon cœur doit frémir? Et en même temps, comment je dois avoir espoir? Donc, quelle que soit la situation que tu vis, même si tu es au plus profond d'un trou, dans les abîmes de tes problèmes, tu sais que quand tu lèves tes mains, tu t'adresses à Al-Qadir et Al-Aziz, celui qui est puissant, celui qui n'a pas de limite à sa puissance, celui qui est capable de tout, ala kulli shay'in qadir, celui dont toutes les choses sont dans ses mains, biyadihi al-mulk. Tout ça, ça nous donne confiance, ça booste le iman, ça nous permet de garder confiance en Allah, quelque chose. D'après les sahaba, comment ils ont tenu? Comment est-ce qu'ils ont tenu dans les situations si compliquées, les épreuves qu'ils ont vécues? Vous croyez quoi? Nous, quand on a un problème, tout de suite, hein, là, il faudra prendre l'exomile, il faudra prendre, les anxiolytiques, parce que là, on est en train de craquer, ça ne va plus du tout, il faut prendre des trucs pour dormir, il arrête les dalliques, on ne tient pas. Sahaba, ils n'ont pas besoin de tout ça, bien sûr. Ils avaient confiance en Allah. Sahaba, ils pouvaient voir sa famille entière mourir, fi sabilillah, à cause de leur iman, éprouvé de cette façon. Il sait que, on adore Al-Aziz, Al-Ghafour, Al-Qadir. Il est capable de tout. Et s'il voulait changer, il voulait que cette chose ne se produise pas, il l'aurait déjà changé. Mais donc ça c'est la volonté d'Allah, il y a un khair, il y a un bien pour moi là-haut. Ils acceptaient toutes les situations de la vie parce qu'ils avaient une confiance totale en Allah. Et comment est-ce qu'ils avaient une confiance totale en Allah? Parce qu'ils connaissaient les qualités d'Allah. En fait, notre discours va toujours retourner vers le même point. Il faut qu'on apprenne à connaître Allah, à connaître les qualités d'Allah pour vraiment avoir confiance en lui, pour l'adorer vraiment comme il le faut. Donc, wa huwa al-aziz, la puissance d'Allah, et al-ghafour, Ibn Kathir dit, et ça on va reprendre la prochaine fois pour ne pas bâcler cette fin de verset, on a là juxtaposé deux sifat qui ne vont pas dans le même sens. Al-aziz, c'est la puissance d'Allah, et al-ghafour, ça émane de sa clémence. Puissance et clémence juxtaposé pour que l'homme comprend que en même temps Allah est capable de tout, il est fort, en même temps Allah est généreux, clément, miséricordieux, il est bon, il nous aime et il attend qu'on revienne vers lui pour nous accorder son pardon. Tout ça, ce sont les sifat, les qualités d'Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. On va continuer la semaine prochaine, vendredi. C'est pas Eid al-Adha, non? Vendredi prochain, non? C'est dans deux semaines. D'accord, donc dans deux semaines, ça n'en fera pas. Mais vendredi prochain, on va reprendre le verset 2. On revoit la conclusion et on essaie de faire le verset 3 et 4. On essaie d'avancer 2 ou 3 versets par jour. Qu'Allah, Rabbul Izzah, a la possibilité de comprendre ce qui a été dit et que la réalité et la puissance des versets pénètrent nos cœurs, augmentent notre iman. Et quand on se prosterne, on ressent la puissance et la force d'Allah Azza wa Jal et qu'on puisse vivre en fonction des ordres du Coran. Amma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zakum akhir.